Bonsoir. Guerre dans l'est de la RDC. Le Rwanda accuse la RDC, la MONUSCO, d'avoir délibérément bombardé lundi dernier les villages rwandais de Kageshi et Gasiza, à environ 8 et 12 kilomètres au nord de Gisenyi. Accusation que rejette le gouvernement congolais et la MONUSCO. Quelle analyse faire de ces accusations du gouvernement rwandais? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 17 juillet 2013. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Lambert Mende, ministre des médias chargé des relations avec le Parlement et l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Il est le porte-parole du gouvernement central. Monsieur Mende, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Hassan Mouaka, député national de l'opposition et cadre du parti politique DFCN. Il est coordonnateur du Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur Mouaka, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Dominique Wert, il est professeur à l'Université de Liège en Belgique et consultant de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Dominique, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde et à tous vos auditeurs et à vos invités.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Julien Kaff de Kamina au Katanga. Le gouvernement doit comprendre que le Rwanda cherche des prétextes pour renvoyer ses troupes sur le sol congolais par ses accusations. Robert Kabandani de Bukavu, Sud Kivu. Ces accusations, qu'elles soient vraies ou fausses, la grande leçon à tirer est qu'il faut mettre fin à la guerre à l'Est pour préserver les vies aussi bien des Congolais, des Rwandais que des Ougandais. Merci de nous suivre à Goma au Nord Kivu sur la 105.2 et pour vous qui êtes à l'étranger. Merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Comme je l'ai dit dans mon introduction, le Rwanda accuse la RDC, la MONUSCO, d'avoir délibérément bombardé lundi dernier les villages rwandais de Kageshi et Gasiza, à environ 8 et 12 kilomètres au nord de Gisenyi. Le général Joseph Nzabamwita, porte-parole de l'armée rwandaise citée par l'AFP, parle de deux obus qui ont atterri dans ces deux villages sans faire des blessés. Accusation que rejette le gouvernement congolais et la mission onusienne au Congo. Innocent Olinga nous en dit plus.
Les Rwandais soutiennent que les deux obus ont été tirés d'une zone contrôlée par les FRDC et la MONUSCO. Pour ces pays, il s'agit d'un acte de provocation délibéré. Cela signifie que nous avons été agressés, a déclaré à l'agence France Presse le général Joseph Nzabamwita. Mais du côté gouvernement congolais, on s'est dit ne pas être surpris par ce genre d'accusation émanant du Rwanda. Lambert Mende est son porte-parole.
Pour nous, il n'y a rien de neuf dans ces accusations. On se trouve bien en face des stéréotypes habituels de la propagande de nos voisins chaque fois qu'ils tentent de justifier l'injustifiable. Maintenant, ils se rendent compte que, un, l'armée est montée en puissance, deux, la communauté internationale, la communauté africaine est solidaire de la RDC, que toute leur propagande passée ne produit plus les effets escomptés, et ça donne des sueurs froides. D'où cette agitation que nous observons chez ceux qui étaient habitués à entrer au Congo comme un couteau entre dans du beurre, sans aucune résistance.
Pour sa part, la MONUSCO dit n'avoir pas pris part au combat ayant opposé ces derniers jours les FRDC aux rebelles du M23. Ce qui signifie, déclare les porte-parole militaires de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Prosper Félix Bass, que la force onusienne n'a tiré aucun obus au Rwanda.
Parlons de la MONUSCO. Elle rejette en bloc les accusations du Rwanda. La mission onusienne au Congo précise qu'elle n'a tiré aucun obus, aucune bombe en territoire rwandais. C'est ce qu'a dit le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en charge de l'état des droits en RDC ce mercredi lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. On écoute le général Abdallah Wafi dans ses propos recueillis par Belinda Bosuma.
Par rapport à toutes ces accusations contre la MONUSCO, contre la brigade d'intervention, je voudrais dire ici au nom de la MONUSCO que ces accusations, nous les rejetons en bloc. Elles sont sans fondement. Nous n'entretenons aucune relation avec aucun groupe, fut-il le FDLR ou autre. Je vous rappelle que notre mandat, c'est de neutraliser ces groupes armés, pas d'entretenir quelconque relation avec ces groupes-là. Et donc, par rapport à cela, Ces accusations, nous les considérons comme extrêmement graves et je peux, au nom de la mission, vous dire que la force de la MONUSCO, l'ensemble de la force, que ce soit la brigade d'intervention, que ce soit la brigade du Nord Kivu, nous n'avons aucune relation, aucun lien avec des groupes négatifs dont nous sommes censés neutraliser les activités pour assurer la protection de la population civile. Je crois que ceci a le mérite de la clarté.
Monsieur Lambert Mende, au Malanga, vous êtes porte-parole du gouvernement congolais. Pourquoi la RDC rejette les accusations du Rwanda?
Nous rejetons ces accusations parce qu'elles ne sont pas fondées. Elles sont mensongères. C'est de la fuite en avant de la part de nos voisins. Un de vos auditeurs a dit que le Rwanda a tenté ainsi de trouver des raisons pour renvoyer des troupes au Congo. Je veux légèrement nuancer en disant qu'en réalité, le Rwanda essaye de justifier la présence de ses troupes qui sont déjà en République démocratique du Congo aux côtés du M23. Et donc, il y a cette fuite en avant qui essaye de transformer l'assassin en victime, le voleur en volé, et qui essaye en réalité d'échapper à sa responsabilité. Voilà la réalité.
Et donc, vous confirmez qu'il n'y a aucun obus, aucune bombe qui est tombée dans le territoire rwandais?
Nos troupes ont des instructions très claires. Il est possible qu'un obus soit tombé dans le territoire rwandais, mais pas tiré par les FRDC. Nous connaissons les manœuvres de désinformation dans lesquelles nos amis rwandais sont passés maîtres. Il n'est pas exclu qu'ils aient tiré eux-mêmes des obus pour, sur base de témoignages, accuser les FRDC et essayer d'alléger la pression que les FRDC mettent sur leur poulain du M23 et retarder ou saboter le déploiement de la brigade internationale qui, en réalité, leur enlève le pain de la bouche. Il y a tellement de motivation pour le Rwanda à mentir pour empêcher cette étape des résolutions des Nations Unies de se réaliser.
Alors, le Rwanda n'accuse pas seulement la RDC d'avoir bombardé deux de ses villages, mais aussi d'intégrer les FDLR dans les FRDC.
Nous aurions voulu que le Rwanda puisse compléter ses accusations par des éléments qui nous permettent de chercher des preuves. Parce qu'il n'est pas exclu dans une armée que des éléments indisciplinés se comportent contrairement aux instructions, mais la façon dont ils énoncent leurs accusations ne nous permet pas d'envisager même une enquête. Lorsque nous accusons le Rwanda, par exemple, de soutenir les criminels du M23 en leur accordant notamment l'asile politique, alors que le Rwanda s'était engagé dans l'accord cadre d'Addis Abeba à ne pas recevoir sur son territoire des criminels de guerre poursuivis par un mandat international ou par des sanctions des Nations Unies, nous donnons des noms. Nous citons M. Runiga, qui vient de recevoir l'asile politique au Rwanda. Nous citons Baudouin Garouye, qui vient de recevoir l'asile politique au Rwanda. Lorsque le Rwanda accuse les FRDC, certains commandants notamment, d'avoir intégré dans nos forces commando des éléments de FDLR, il n'y a aucun nom qui est donné. Nous savons par contre que le Rwanda est en train de préparer certains repris de justice ou d'anciens ex-FARC qui ont été rapatriés à partir de RDC pour les présenter comme la preuve d'éléments qu'ils auraient arrêtés pendant les combats au sein des forces des FRDC. Tout cela se fait de manière assez précipitée et nous avons pu avoir maintenant des informations qui indiquent que ces déclarations préparent en réalité ces mises en scène que le Rwanda va projeter, je pense, dans les jours qui viennent.
Mais le Rwanda dit de tenir d'informations très crédibles, monsieur le ministre.
Il ne suffit pas de dire qu'on détient des informations très crédibles pour que ces informations existent. Encore faut-il les produire. Je ne sais pas si vous les avez eues, en tout cas nous, pas. Et nos partenaires des Nations Unies ou de la CIRGL, en tout cas le mécanisme de vérification de la CIRGL où nous sommes représentés, n'a aucune nouvelle de ces fameuses informations crédibles. C'est de la désinformation.
Alors, monsieur le ministre, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani dans la province orientale.
Moi, c'est Pepe Lisungi Betemoito depuis Kisangani en province orientale. J'apprécie le courage du Rwanda, même si cette accusation n'est pas vraie. Elles ont profité de notre faiblesse car le gouvernement en place a toujours eu réserve pour accuser ou citer le Rwanda sur tout ce que le dirigeant rwandais fait au Congo. Et cette façon de voir les choses nous affaiblit davantage. Et vu le poids politique qu'a le Rwanda sur le plan international, se risque que cette accusation retourne à mal contre la RDC.
Monsieur le ministre, comment vous réagissez?
Je pense que notre auditeur est totalement en retard. Je ne sais pas s'il a suivi tous les discours du gouvernement, le discours du chef de l'État, déjà le 15 décembre 2012, s'il n'a pas cité le Rwanda, alors moi je ne m'appelle plus Mende. Le chef de l'État a cité le Rwanda, moi-même porte-parole du gouvernement, j'ai parlé du Rwanda il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, et maintenant je suis en train de parler du Rwanda, et si le Rwanda réagit, c'est qu'il est piqué au vif par les accusations avérées, prouvées que nous proférons contre lui. Donc il n'y a pas lieu de nous faire croire ce qui n'est pas, que le gouvernement ne cite pas le Rwanda, le gouvernement cite bien le Rwanda. Suivez bien l'actualité, vous vous rendrez compte de cela. Alors, prétendre que le poids politique du Rwanda va lui donner gain de cause, je ne pense pas, parce que le Rwanda est sous sanction de beaucoup de pays. Le Rwanda essaye d'accuser même la communauté internationale. Alors, auprès de qui le Rwanda serait-il encore crédible? Je ne pense pas. Le vent a tourné et c'est ce qui énerve nos voisins du Rwanda.
Merci, Monsieur le ministre, professeur Arsène Mouaka. Vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique DFCN. Vous êtes aussi coordonnateur du Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Comment vous analysez ces accusations du Rwanda?
Oui, je crois qu'en tant que citoyen congolais, je me dois d'abord de féliciter notre armée, puisque nous avons rarement de très bonnes nouvelles. Je crois que tous ces 3 jours, nous avons eu de bonnes nouvelles et j'ai le devoir de féliciter notre gouvernement et dire que, en fait, c'est comme ça qu'un État réagit quand sa souveraineté est remise en cause. Et donc, je crois qu'il y a une très bonne nouvelle et je ne fais qu'encourager notre armée. Maintenant, ces bonnes nouvelles n'arrangent pas justement un des États qui nous ont le plus longtemps dérangé, et je semble croire que la rhétorique que nous attendons aujourd'hui du Rwanda, c'est une rhétorique connue depuis la guerre de l'AFDL, et donc le Rwanda a toujours des intérêts sécuritaires chez nous, il a toujours des raisons d'accuser le Congo à chaque fois qu'il veut intervenir, et je semble croire que c'est déjà connu. C'est habituel. Je voudrais juste attirer l'attention de notre gouvernement et de toute la communauté internationale pour dire que c'est du connu. Et donc, il est très important qu'on puisse prendre au sérieux ces déclarations plutôt que de les prendre à la légère. Et je semble croire que pendant très longtemps, notre absence, l'absence d'une politique de défense congolaise ferme et claire a fait la grandeur du Rwanda. Il est temps que nous puissions nous déterminer et avoir pratiquement une position qu'un État peut avoir quand un État voisin le dérange aussi longtemps. Et je voudrais aussi attirer la MONUSCO pour dire que la phase d'observation, d'imposition est terminée. Je crois que la population de Goma a fait cette leçon à la MONUSCO pour dire qu'on a longtemps tout oublié et qu'il ne serait pas intéressant alors que il y a des résolutions claires qui veulent que nous puissions intervenir, qu'on travaille aussi longtemps. Et donc, je crois qu'il est temps que notre pays soit pris au sérieux et qu'on nous donne la chance d'être un État en paix et que nous discutions plus de notre développement que de notre sécurité.
Professeur Arsène Mouaka, qu'est-ce qui pourrait se cacher, selon vous, derrière ces accusations du Rwanda?
C'est clair, le Rwanda veut intervenir. Il veut aider le M23 qui est en difficulté. Et donc, c'est ce qui se cache derrière et je crois que dans les jours qui vont suivre, nous allons voir ces accusations augmenter. Mais je crois que ceux qui sont au gouvernement, la plupart de ceux qui sont au gouvernement, même le ministre Mende avec qui nous sommes sur ce plateau, connaît cette tactique très bien. Il connaît que le Rwanda se bat en parlant et en accusant, en se victimisant. J'ai lu son ouvrage, il l'a écrit. Et donc, il est temps que le Rwanda soit pris très au sérieux et que pour une fois, nous puissions démontrer à l'humanité que le Rwanda n'a pas une usine de lance-pierre, même pas de flèche, et qu'il est temps que cette aventure cesse et que le Congo soit aussi un pays qui peut vivre en paix.
Mais le Rwanda nie toujours d'être ou de soutenir le M23.
Il le niera jusqu'à la fin, jusqu'au jour où le Congo va prendre le dessus et se comporter comme un État sérieux.
Professeur, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au Sud-Kivu.
Amos Misima, gouvernement du PCP à partir de la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu. Kigali a toujours profité de la déliquescence du pouvoir congolais en utilisant divers prétextes. Les Interahamwe aujourd'hui décombent larguer délibérément sur son territoire en guise de continuer à appuyer les M23 tout en viant nos ressources. Kigali ne peut jamais se comporter de la manière devant un État responsable.
Professeur Arsène Mouaka, le Rwanda ne peut jamais se comporter ainsi devant un État responsable.
Mais c'est très clair, c'est vraiment clair. Je crois qu'il suffit de dessiner les cartes des deux États. Il suffit de dénombrer le nombre de militaires. Il suffit de dénombrer les citoyens pour comprendre que le Rwanda ne devrait pas continuer à faire des choses comme ça contre le Congo. Nous avons besoin de vivre en paix avec nos frères rwandais. Nous avons besoin d'être en paix et échanger comme nous échangeons. Mais je crois qu'il y a un régime qui croit que ça doit être dérangé à tout moment. Et donc, je semble croire que si le Rwanda est perçu comme un pays qui, quand il intervient dans une guerre, on ne peut plus se battre, c'est justement par la faiblesse qui a été organisée au Congo. Et donc, je semble croire qu'il est temps d'organiser la force. Et ce qui est en train de se passer est à encourager. Je souhaiterais que ça dure.
Et là, vous parlez de la faiblesse de l'État congolais?
Absolument, et de la désorganisation de l'armée.
Merci, professeur Arsène Mouaka. Professeur Dominique Wertz, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et consultant de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Quelle est votre lecture de ces accusations du Rwanda? Professeur Dominique? Je crois que nous avons un problème avec la ligne du professeur Dominique. La réalisation va essayer de le retrouver. Monsieur le ministre, vous avez suivi la réaction d'Amos Bissimwa qui estime que si la RDC était un État responsable, tout ça ne devait pas se passer dans ce pays. Le Rwanda ne pouvait pas entrer et sortir comme il veut.
Je pense qu'il serait mieux de plutôt réfléchir dans une autre approche, dire que si la RDC n'était pas un État aussi riche, peut-être il ne susciterait pas autant de convoitises de la part du Rwanda qui croit que son avenir réside dans le pillage des ressources économiques de la République démocratique du Congo. Je pense que là est le secret. Le président Obama, qui est certainement l'homme le mieux informé de la planète, l'a dit lors de son escale à Dar es Salaam, que la République démocratique du Congo est victime de ses richesses notamment, et il a appelé notre gouvernement à poursuivre les efforts de consolidation de notre système de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait. Donc, je ne pense pas que le simple fait qu'il y ait des problèmes en République démocratique du Congo, il y en a eu depuis 1960, et des problèmes que le Rwanda cherche à nous imposer ici datent de 1994. Et la réponse que nous avons donnée à cette arrivée massive de réfugiés rwandais procédait effectivement d'un État faible. Et jusqu'à aujourd'hui, cette présence massive de réfugiés rwandais a donné des prétextes à divers intervenants dans la communauté internationale pour nous empêcher de construire un système de défense comme si on voulait nous rendre ouverts, le plus ouvert possible, à cette prédation internationale qui utilise le Rwanda comme tête de pont. Je pense que c'est ça l'analyse la plus pointue qu'on puisse faire de cette situation.
Alors le professeur Arsène Mouaka dit aussi qu'il faut prendre, le gouvernement doit prendre au sérieux cette déclaration du Rwanda ou ces accusations du Rwanda. Il ne faut pas se réjouir rapidement.
Je ne sais pas si le professeur a senti en moi une réjouissance quelconque, je suis tout à fait d'accord avec lui. Nous prenons très au sérieux cela. C'est pourquoi nous avons fait monter en puissance notre armée. C'est pourquoi nous avons consenti beaucoup de sacrifices lorsqu'on regarde nos capacités budgétaires. Nous avons consenti énormément de sacrifices qui rendent possible aujourd'hui ce qui commence à apparaître comme un frémissement un comportement d'une armée digne de ce nom. Ce n'est que le début. Nous pensons qu'il faudra encore beaucoup de sacrifices. Mais le professeur Mouaka, que je salue, peut se rassurer, nous prenons très, très au sérieux cette sortie du bois du Rwanda qui, je le répète encore, croit que sans piller le Congo, il n'y a pas de survie pour lui, ce qui est une fausse prémisse.
Alors justement, monsieur le ministre, en parlant de l'armée, qu'est-ce qui explique cette montée en puissance brusque de l'armée congolaise?
Mais qu'est-ce qu'une armée, sinon des hommes, un corps de discipline, une rigueur dans la gestion et des moyens militaires, c'est-à-dire équipement et l'armement. tous choses qui manquaient parce que on nous avait imposé des mélanges tout à fait incapacitants, on nous a imposé des réductions de budget à affecter à l'armée, on nous a imposé l'idée que tous nos problèmes devaient être résolus par d'autres que nous-mêmes. Nous avons changé la perspective depuis 2009 et lentement mais sûrement nous avons commencé à mettre en place une structure militaire. Je vous assure que nous n'en sommes qu'au début et les résultats que l'on voit maintenant ne sont que des frémissements. Ce n'est pas encore ce que nous espérons, mais nous estimons qu'à la fin de l'exercice, tous nos concitoyens auront de quoi être fiers et même très fiers de leurs forces armées.
Brièvement, monsieur le ministre, qui vous a imposé? Parce que vous dites qu'on nous a imposé, on nous a imposé le on, là c'est qui?
Mais vous savez très bien, après les différents problèmes que nous avons connus ici en 97, surtout à partir de 98, avec l'agression encore du Rwanda en 98, il y a eu pas mal d'intervenants de la communauté internationale. Avant cela, on nous a imposé la présence de plusieurs millions de réfugiés rwandais, dont des personnes armées qui ont donné à M. Kagame et son gouvernement des justifications pour entreprendre toutes les interventions qu'ils font chez nous. Tout cela est venu de la communauté internationale.
Merci, monsieur le ministre.
Nous considérons comme juste et bon que la communauté internationale participe au règlement de ce problème qui a été créé au départ par la communauté internationale.
Merci, monsieur le ministre. On vous a compris. Professeur Dominique Wertz, vous êtes en ligne?
Oui.
Alors, professeur,
oui, bonsoir.
Bonsoir. Quelle est votre lecture de ces accusations du Rwanda qui accuse la RDC d'avoir bombardé délibérément deux de ces villages?
Ben écoutez, il ne me revient pas évidemment de pouvoir tracer les responsabilités des uns et des autres dans ce qui se passe actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Par contre, on peut faire une lecture en effet à trois niveaux de l'attitude du Rwanda actuellement sur les accusations qui ont été portées contre d'une part les forces armées de la République démocratique du Congo et puis d'autre part la MONUSCO, disant qu'il y aurait eu des obus qui soient tombés sur le sol rwandais. La lecture à trois niveaux, à mon avis, se situe d'une part, bien entendu, avec la continuation ou en tout cas le processus de réconciliation qui se passe au niveau de Kampala et où on voit aujourd'hui que la République démocratique du Congo, dans la résolution du conflit avec le mouvement du M23, commence doucement à aboutir, ce qui pourrait évidemment mettre un petit peu en difficulté le Rwanda. Et donc, normalement, ces fameux accords de Kampala qui sont engagés là maintenant depuis plusieurs mois devraient atterrir et aboutir à une conclusion ou à un accord. Et évidemment, s'il y a accord entre le M23 et le gouvernement congolais, cela pourrait mettre un petit peu en difficulté le Rwanda. Deuxième niveau de lecture, je pense qu'il y a évidemment la visite, on en parlait sur vos ondes il y a une semaine, la visite du président Obama sur le continent africain, où on a vu qu'il s'est quand même fortement rapproché du président Kikwete en Tanzanie, lequel président avait tapé du poing sur la table à l'occasion de la rencontre de la conférence intergouvernementale de l'Union africaine il y a quelques semaines, en disant que maintenant, si les belligérants qui sont actuellement actifs de près ou de loin à l'intérieur de l'Est de la République démocratique du Congo, si ces belligérants engageaient un véritable dialogue national avec les groupes rebelles qui sont issus de leur pays et qui sont actifs sur le territoire congolais, eh bien peut-être que ça pourrait aussi amener à une solution. Et donc ça voulait dire simplement quoi? Que le Rwanda devait engager directement un dialogue national ou en tout cas une concertation nationale avec les fameux FDLR qui sont soi-disant actifs sur le territoire congolais et qui menacent la sécurité du Rwanda. Et donc évidemment, à partir du moment où le président Obama a un peu pris position dans son dernier voyage sur le continent africain avec son collègue, le président Kikwete, cela met évidemment aussi de nouveau le Rwanda un petit peu en difficulté. Et puis, troisième lecture, je pense qu'il y a aussi, alors c'est lié à cela, mais il y a aussi un changement de leadership au niveau de la CIRGL, et la Tanzanie, justement, reprend le leadership au sein de cette conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Elle reprend le leadership que l'Ouganda possédait auparavant. Et donc, on a de nouveau ici une situation où on voit bien, alors que le Rwanda est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, eh bien que actuellement la diplomatie internationale est en train de se focaliser un peu plus sur la Tanzanie que sur le Rwanda. Et du coup, on pourrait comprendre, ou en tout cas analyser ou décoder la réaction du Rwanda, parce qu'elle est un petit peu le pied au mur, en fait, dans le Conseil des Nations et dans toutes les grandes dynamiques internationales qui se mettent en place, avec notamment, évidemment, cette fameuse force d'intervention rapide qui a bien déterminé que une des cibles qui était la sienne était le M23 et qu'il fallait donc aujourd'hui le neutraliser.
Et donc,
voilà, on se retrouve dans une situation où je pense que le Rwanda actuellement
se sentirait-il acculé de part et d'autre.
Dernière carte.
Je disais donc, on retient que d'après vos analyses, le Rwanda se sent un peu acculé des part et d'autre.
Voilà.
Alors,
je pense que c'est ça peut être une lecture en effet de la réaction du Rwanda. Maintenant, moi, je pense quand même aussi que la meilleure solution, même si on ne peut pas accepter n'importe quel discours et que les accusations portées actuellement par le Rwanda contre les forces armées de la République démocratique du Congo et contre la MONUSCO doivent évidemment être étayées de preuves claires et incontestables. Or, actuellement, je ne suis pas sûr que on a entendu le porte-parole de la MONUSCO, on a entendu le porte-parole du gouvernement congolais. Les deux parties incriminées contestent et même ne reconnaissent absolument pas les accusations du Rwanda.
Alors, on va prendre pour vous, professeur.
En même temps.
Professeur, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Robert Bahome de Bukavu au sud Kivu. Ces accusations du gouvernement rwandais ne sont pas du tout fondées. À y regarder de près, je pense qu'il s'agit d'une fuite en avant ou carrément d'un faux fuyard du Rwanda qui veut faire semblant de se retirer d'affaires et ainsi faire porter toute la responsabilité de la guerre de M23 sur la RDC.
Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de Robert Bahome, professeur Dominique?
Ben écoutez, je pense qu'elle est peut-être un petit peu excessive, mais elle n'est pas dénuée de fondement. Et en même temps, moi, je plaide comme spécialiste des relations internationales et de la science politique, je plaide quand même pour que, évidemment, le contact ne soit pas rompu, surtout avec un pays comme le Rwanda, qui est voisin de la République démocratique du Congo. Mais en même temps, oui, je pense que la lecture de votre auditeur de Bukavu n'est pas tout à fait dénuée de fondement.
Merci, professeur Dominique. Professeur Arsène Mwakaya, maître David Mambo de Bouillon, province orientale, qui dit ceci. Cette accusation du Rwanda peut être considérée comme vraie lorsqu'on considère la position géographique où se trouvent les lignes des fronts. Vous êtes élu du Nord Kivu, vous êtes du Nord Kivu. Est-ce que vous partagez ce point de vue de cet auditeur, David Mambo de Bouillon?
Bon, je crois que David Mambo est à plus de 500 kilomètres du front, il est très difficile pour lui et pour moi d'attester, mais ça, il appartient à celui qui accuse d'apporter des preuves, puisque il est très facile d'accuser l'armée congolaise et la MONUSCO d'avoir bombardé. Pourquoi le Rwanda n'accuserait pas le M23 peut-être de le bombarder pour l'obliger à intervenir au Congo sous prétexte que ce serait l'armée congolaise qui aurait tiré des obus sur les villages rwandais. Et donc toutes ces hypothèses sont possibles, mais je crois qu'ici le plus essentiel pour le Rwanda, c'est de se rappeler qu'il y a l'accord cadre et que dans cet accord cadre, il y a des obligations. et que ces obligations doivent quand même être observées. Il appartient aussi au gouvernement congolais d'exiger des choses, parce que notre gouvernement est très timide. Quand il parle de diplomatie, c'est pour aller négocier avec des gens qui dérangent le pays plutôt que d'exiger des choses qui sont très bien signées. Il est dit par exemple dans l'accord cadre que les pays voisins ne peuvent pas héberger des ennemis des autres pays. Est-ce que notre gouvernement a déjà demandé l'extradition d'un certain nombre des criminels qui auraient eu refuge dans ces pays voisins? Et donc il y a des choses que notre gouvernement doit devoir exiger. À d'autres termes, nous devons avoir une politique sécuritaire qui aurait des axes, et dans ces axes, on exigerait un certain nombre de choses qui sont à notre portée, puisque le Rwanda a signé l'accord cadre. Pourquoi on ne lui exigerait pas de choses? Et donc c'est au nom de ça que le Rwanda nous exige pendant très longtemps. Nous avons travaillé pour lui. Il nous a obligés de combattre ces FDLR, nous l'avons fait, il nous a obligés des choses successivement, et je crois qu'il est temps que nous ayons une politique sécuritaire, que nous ayons une diplomatie qui exige des choses et que des gens travaillent aussi pour nous.
Alors là, on a suivi le ministre qui parle de cette montée en puissance de l'armée congolaise. Vous avez même félicité cette bravoure de l'armée congolaise. Est-ce que là, on est déjà dans l'option militaire et qu'il faut oublier l'option diplomatique ou les concertations de Kampala?
Oui, bon, c'est là la faiblesse de la politique du gouvernement. Je crois que tout ce qui existe sur la politique ne doit pas être la stratégie d'un pays. Tout ce qui existe, puisque dans une situation de guerre, on peut soit faire la diplomatie, soit faire la politique, soit faire le militaire. Comment un pays doit opter pour tout? On doit choisir une chose. Et ça doit être ça la stratégie principale. Le reste ne peuvent être que des éléments qui accompagnent l'option principale. Et donc pendant très longtemps, on nous a endormis avec ces discours de trois choses qui existent sur la politique. Non, on ne peut pas utiliser tout ce qui existe sur la politique. Quand on gère un pays, je semble croire qu'il faut prendre l'option. Et je semble croire que ça trop traînait et les Nations Unies ont pris le devant pour dire qu'il faut anéantir les groupes qui dérangent les pays. Les discours, on en a trop attendu et je semble croire qu'il est très clair que le gouvernement doit devoir, non pas par accident, tomber dans l'option actuelle, mais y réfléchir, rationaliser et continuer à travailler dans ce sens, et nous ne pourrons que l'encourager.
Il y a un autre auditeur, professeur Arsène Mouaka Robert de Bukavu, qui dit ceci: Kabandani de Bukavu, ces accusations, qu'elles soient vraies ou fausses, la grande leçon à tirer est qu'il faut mettre fin à la guerre, laisse pour préserver les vies aussi bien des Congolais, des Rwandais que des Ougandais.
Parfaitement raison, puisque je ne pense pas que au moment où quelqu'un tire sur vous, que vous choisissiez des bouquets de fleurs et autres pour aller les cajoler. Il est très clair qu'une armée a été inventée pour réagir à pareille situation. Et pendant des années, nous avons cru que quelqu'un pouvait tirer sur vous et vous voulez retourner des bouquets de fleurs. Alors que vous avez une armée, vous avez une police, vous avez des services spécialisés. Donc je semble croire qu'il est clair. La partie est du pays ne sera jamais en paix tant que nous ne comprendrons pas qu'il faut organiser l'armée et permettre à notre armée de faire des choses. Et donc, de nouveaux genres, il n'y a pas de munitions, on a détourné, je crois, la solde ou je sais pas, les frais de ménage, on a fait ceci, je crois que c'est des nouvelles qu'on ne devrait plus attendre sous peine de haute trahison. Je semble croire que c'est des choses qu'on ne doit plus attendre. Et là, le gouvernement se trouve sur une bonne voie, on ne peut que l'encourager.
Merci, professeur Arsène Mouaka. Monsieur le ministre, l'opinion se demande quel est l'état des relations aujourd'hui entre le Rwanda et la RDC?
Les relations ne sont pas au bon fil. Ce serait mentir que de dire que des gens qui sont en train de tirer sur vos militaires, de tuer vos hommes, vos femmes, vos enfants, de violer votre territoire, de piller vos ressources, que les relations sont au bon fixe. Nous n'avons certes pas encore mis fin aux relations diplomatiques, mais nous avons rappelé notre ambassadeur, qui n'est pas pour l'instant à Kigali. C'est dans la hiérarchie des actes que l'on peut poser en diplomatie, un moyen également d'envoyer un signal. Mais nous avons choisi également d'écouter les conseils avisés de nos experts et de nos partenaires, qu'il ne faut pas rompre les contacts. Bien sûr, chaque fois qu'on tire sur nous, nous répondons. C'est le cas depuis dimanche. On a tiré, nous avons répondu. Il est mort jusqu'à hier soir plus de 180 assaillants. Il est possible que parmi ces assaillants, il y ait aussi bien des Congolais que des Rwandais qui accompagnent ces Congolais, alors que nous avons perdu tout juste une quinzaine de nos éléments, ça indique une montée en puissance, ça indique une réponse, mais ça ne peut pas nous amener à mettre sous le boisseau les autres efforts, parce que s'il n'y avait pas eu la diplomatie, s'il n'y avait pas eu le politique, on n'aurait pas, par exemple, l'appui assez apprécié par nous de la brigade internationale dont tout le peuple se félicite aujourd'hui.
Monsieur le
Donc,
ministre,
une option n'écarte pas une autre.
Monsieur le ministre, et que devient Kampala finalement? Kampala va continuer?
Kampala pourrait continuer si le M23, mis sous la pression, déposait les armes. Toutes les guerres se terminent par la signature d'une reddition par ceux qui ont perdu ou d'un accord pour limiter les dégâts par les deux camps. Donc Kampala est toujours une option qui est ouverte, mais pas à n'importe quel prix, contrairement à ce que certains pourraient penser. Kampala n'est opérationnel que si et seulement si le M23 acceptait les conditions que le gouvernement met, les conditions que la CIRGL a mises, les conditions que l'Union africaine et le Conseil de sécurité ont mises, cesser d'exister comme groupe armé, cesser d'utiliser les armes comme moyen de faire aboutir des revendications.
Monsieur
le gouvernement s'en tient à ce préalable.
Monsieur le ministre, il y a Matumaini Franklin de Bukavu qui nous écrit et dit ceci. Le Rwanda cherche à justifier son intervention officielle en RDC et a amené le gouvernement congolais à intimer l'ordre au FRDC de reculer car il sait que le gouvernement congolais s'accroche aux accords et ne pense pas au sort de ses gouvernés et de l'intégrité du territoire. Mais est-ce que cette fois-ci le ministre peut nous rassurer que les FRDC ne recevront pas l'ordre de Kinshasa de reculer? Est-ce que les FRDC auront tout ce dont ils auront besoin pour mettre fin à cette guerre avec les M23 sans être stoppé par Kinshasa?
La première chose, c'est que Kinshasa, comme il le dit, n'a jamais donné un ordre de reculer à qui que ce soit au sein des FRDC. Les opérations sont des choses qui se passent sur terrain. Lorsque vous perdez une unité qui est allée en mission, ça vous n'allez pas donner des ordres aux corps qui sont morts de continuer le combat. Tout est question aussi d'équilibre. Nous avions des faiblesses que nous n'avons plus maintenant, donc l'espoir est permis. Il ne faut pas calomnier le gouvernement. Personne ne peut nous prouver que le gouvernement a donné un ordre ou que le président de la République a donné un jour un ordre de repli. C'est totalement faux. Il y a beaucoup de rumeurs là-dessus qui sont lancées, même par nos ennemis, mais ceci n'a jamais été prouvé. Sinon, nous aurions organisé des procès pour trahison.
Mais
alors, les accords auxquels nous nous en tenons, il n'y a aucun accord qui ait été signé sans qu'il soit dans l'intérêt national. Aucun accord.
Merci.
Lorsque nous signons un accord, c'est pour conduire les choses vers une destination qui nous permette de mettre fin au moindre coût en vie humaine à cette guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda.
Merci,
et les alliés
Monsieur
du Rwanda dans
ministre.
Notre pays.
Merci, Monsieur le ministre. Professeur Dominique, est-ce que par ces accusations du Rwanda, on peut dire que le Rwanda est en train de préparer l'opinion à une éventuelle intervention en RDC?
Écoutez, oui, peut-être. Je pense qu'on a souvent considéré que la partie congolaise, et notamment le chef de l'État, n'avait pas mis tous les moyens militaires pour mettre fin aux exactions dont la population congolaise est actuellement victime. Je pense que c'est justement, enfin, une des raisons, en tout cas, pour lesquelles le chef de l'État et le gouvernement congolais n'a pas voulu rentrer dans cette dynamique de confrontation militaire directe avec le Rwanda, mais c'est parce qu'il ne la voulait pas. Et je pense que aujourd'hui, enfin, on se rappelle quand même le discours du chef de l'État il y a quelques mois, fin de l'année 2012, en disant qu'il considérait qu'il y avait trois options qu'il fallait mettre en parallèle les unes avec les autres, une option diplomatique, une option politique et une option militaire. Mais l'option militaire a toujours été celle qui a été la moins soutenue par les autorités congolaises, à juste titre, parce que, en effet, comme vous le dites, ici, les accusations que viennent de proférer le Rwanda contre la MONUSCO, et je répète, c'est quand même assez incroyable de voir qu'un pays qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU condamne, ou en tout cas accuse, une force de la MONUSCO, qui est quand même une émanation du Conseil de sécurité, d'avoir bombardé son pays. C'est quand même un peu une première dans l'histoire du Conseil de sécurité. Et donc,
il est évident que le Rwanda a envie aujourd'hui, me semble-t-il, de pouvoir pousser la République démocratique du Congo à vouloir engager une confrontation militaire directe avec les forces armées rwandaises. Je pense que l'option de la RDC, de la République démocratique du Congo, de ne pas rentrer dans ce piège-là, est plutôt une option intéressante et en tout cas sage, qui doit permettre, même si aujourd'hui, comme le disait très bien son Excellence le ministre Mende, la population congolaise en est la première victime, même si il faut encore donner du temps au temps. Mais je pense que, en effet, la réaction sage mais ferme de la République démocratique du Congo et de l'ONU au travers du représentant du secrétaire général.
Merci, professeur.
Ici en RDC, c'est cette réaction de dire on ne rentre pas dans la confrontation directe est plutôt une réaction sage et durable qui va permettre peut-être d'aboutir.
Merci, professeur Dominique Wertz.
Et surtout à une pacification.
Merci, professeur Dominique Wertz. Je considère cela aussi comme votre conclusion. Professeur Arsène Mouaka, il nous reste moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission. Je vais vous demander aussi de conclure.
Oui, je voudrais dire qu'il est temps que nous puissions redevenir ces grands Congo que tous les Congolais rêvent. Et les dirigeants congolais doivent aujourd'hui, pour ceux qui ont l'impérium, ils doivent se laisser contaminer par ces rêves et réaliser ce que les Kinois qualifient de RDC Lokoyamakasi. Je crois que il est temps que tous les citoyens congolais soutiennent notre armée et que les dirigeants congolais en fait prennent en charge ces émotions congolaises pour que ensemble nous puissions retrouver la paix et nous occuper d'autre chose que de la guerre.
Merci, professeur Arsène Mouaka. Monsieur le ministre, vous avez le dernier mot pour conclure.
Je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion qui nous a été donnée d'interagir entre nous et avec vos auditeurs. Nous voudrions réellement rassurer tous nos compatriotes de l'ensemble du pays et particulièrement ceux des Kivus de notre volonté de réellement mettre un terme à ces conflictualités récurrentes qui sont provoquées délibérément par un voisinage à problème. Nous sommes déterminés à répondre à toute agression, mais nous sommes aussi déterminés à ne pas donner suite à des provocations délibérées qui visent plutôt à replonger cette région dans le chaos et qui ne nous donneraient pas des chances de permettre à notre peuple de voir le bout du tunnel dans un délai raisonnable.
Merci, monsieur le ministre Lambert Mende. Merci également à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté et Samuel Kachak, sous la supervision de Julien Yamouni, qui m'ont aidé à préparer et réaliser cette émission. La mise en onde était assurée par Guy Manzangou. Au micro, Kélin Kouté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Rediffusion demain, 4h15, heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.